êtes sur Frequenza Nostra, je vous le disais il y a peut-être 10 minutes, même pas, toute l'équipe, enfin pas toutes, puisque nous attendons les Bastiers en espérant que voilà, ils ne se soient pas perdus sur le cours Napoléon, qui n'en finit pas ce cours Napoléon. Très long, très long le cours Napoléon. Bref, toute l'équipe, eh bien, j'ai envie de dire, qui sert la cause des enfants. Nous avons autour de cette table aujourd'hui, dans ce studio, allez, on va commencer par... l'inénarrable, la grande, la... les mots me manquent, Sylvie Marcage d'Ayutukortsu qui est là, Arnaud Gallet qui a fait eh bien, le voyage depuis le pays ami, on va dire, pour nous rejoindre sur notre...
Depuis le continent.
Oui, oui, on appelle ça ici le pays ami, docteur Coin. Voilà, Arnaud, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, activiste des droits de l'enfant, eh bien, qui a créé l'association Move Enfant. Arnaud qui va nous parler, qui a été membre de la CIVIS et qui nous expliquera la CIVIS et nouvellement la CRIVIS. Nous avons la non moins inénarrable Paul Maerten, coordinatrice à l'association C3S Corsica, Corse Santé... Stratégie santé sexuelle, pardon, c'est le soir. Voilà, la journée a été quand même assez chargée en émotions. À côté de toi, Paul, Nafissa, eh bien, qui est...
membre
de C3S. Voilà. Alors, je crois que l'équipe, si quelqu'un veut bien acquérir... Tiens, Nafissa, l'équipe d'Athème Ballet, les Bastiers, on les présentera aussi, bien, qui arrive. On va laisser rentrer, c'est le principe de Frequenza Nostra en direct. Allez-y, entrez, nous avons commencé l'émission, mais voilà. Juste à l'instant. C'est toujours un plaisir, voilà. Le docteur Athème Ballet qui est là. Alors, voilà, Paul, si tu peux laisser le micro fixe à Athème et tu récupères le bleu que je vais brancher de suite. Excusez-moi, voilà. Le docteur Athème Ballet, bonjour et merci bonjour. D'être là. Athème, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, auditrices?
C'est Athème Ballet, je suis médecin urgentiste, praticien hospitalier au SAMU de B à l'hôpital de Bastia. Je suis fondateur, créateur de l'unité hospitalière départementale de lutte contre la violence faite aux femmes en 2017. Et l'ancien chef de service de l'unité médico-judiciaire de Bastia, ancien chef de service des urgences dans le continent, et médecin commandant de l'unité de médecin commandant chez les sapeurs-pompiers. Et je suis le cofondateur du diplôme universitaire de violence, famille et société qui se déroule à l'université de Corte.
Ça en fait beaucoup de... Ça fait toute une liste. Mais en tout cas, on peut dire que vous êtes un membre actif, justement, pour servir cette cause en faveur des enfants, en faveur des femmes victimes de violences. On voit que ça bouge du côté de Bastia, donc.
Oui. Oui, on peut le dire ça.
Il y a une petite seconde d'hésitation, quand même. Mais bon, ça... Allez, on va dire que ça bouge. Docteur Coindre, comment ça va?
Bonjour.
Ça va?
Ça va. Donc, je suis pédiatre à l'hôpital d'Ajaccio. Et je vais être en charge de l'unité d'accueil pour les enfants en danger qu'on appelle UAPED, qui est ouverte et qui aura bientôt ses locaux. Très bientôt, j'espère.
On espère aussi, forcément, et puis on espère aussi que cette unité pourra ouvrir, j'ai envie de dire, en non-stop. Hein, pas juste quelques jours, quelques demi-journées ou quelques heures. Quelqu'un a dit, une très grande personne a dit un jour « I had a dream ». Voilà. Evelyne, est-ce qu'on présente Evelyne Ferry?
Alors non, moi on ne présente pas, mais peut-être ce que je représente aujourd'hui.
Allez, vas-y.
Donc évidemment, bon, je travaille toujours au CIS, hein, ça n'a pas changé, donc toujours dans le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes. Mais mon association, parce que j'ai une association depuis quelques années, Unanime, qui est membre de C3S, et également au titre de mon syndicat qui a été très investi dans le champ de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc on intervient dans... Donc j'ai une triple casquette aujourd'hui, j'allais dire même une quadruple, puisqu'à titre personnel aussi, l'investissement de chacun est important dans cette lutte et ce combat.
Paul, comment ça va, Paul?
Eh bien, ça va. Fatigué,
Parce que mine de rien, cette journée, ça a été un travail de très longue haleine, puisque d'une part, suite au caravane Move Enfant d'Arnaud Gallet, il y a eu tout un travail de fait sur les recommandations territoriales de la société civile, des professionnels de la santé, de la justice, du médico-social, de la ZEU, aide sociale à l'enfance. Et il y a eu un gros travail pour justement mener à bien, suite aux recommandations, un plan d'action pour permettre la mise en place, la mise en œuvre des recommandations pour que ça fonctionne, donc qui est sur une durée de 4 ans. On a prévu de pouvoir en tout cas améliorer le parcours judiciaire et sanitaire des mineurs victimes de violences sexuelles intra ou extra-familiales sur 4 ans, puisque si on a réussi à proposer ce plan d'action en 2 mois, on peut espérer, avec la bonne volonté de tout à chacun, tout à chacune, de pouvoir améliorer ces parcours des victimes mineures, donc des enfants, puisqu'ils sont au centre.
Alors, je sais que le docteur Coin doit partir prochainement, donc est-ce qu'on peut faire un retour ? Est-ce que toi, tu peux nous faire un petit retour par rapport à cette journée ? Est-ce que on a l'impression que les choses avancent ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail, hein ?
Allez. Oui, on a l'impression que les choses avancent. Ça fait du bien de ne pas être tout seul, n'est-ce pas, Arnaud ? Puisqu'effectivement, c'est un peu le ressenti de chaque personne qui travaille avant qu'on se regroupe et qu'on fusionne en fait tous ensemble. C'était effectivement très intéressant. Ce matin, effectivement, la présentation du projet, on a effectivement développé que quelques petits points et le reste des points est consultable sur le site de C3S.
Dans quelques jours.
Donc d'ici peu va être consultable. Et cet après-midi, nous avons vu le film Un homme en colère. Inceste, un homme en colère, j'ai oublié le premier tri. Voilà, qui raconte en fait 3 ans de la vie de Arnaud, qui effectivement était très émouvant et les réactions du public tout autant.
J'avais juste une petite question au docteur Coind avant qu'elle ne parte. Edeline Coind, docteur Coind, explique-nous en quelques mots aussi les raisons pour lesquelles tu as souhaité. Au-delà de ton implication professionnelle dans le cadre de la coordination des UAPED 2A2B, entrer dans la cellule scientifique de C3S et de façon bénévole.
T'es terrible. Pourquoi j'ai souhaité rentrer ? Eh bien, parce que tu m'as proposé de venir, hein ? T'as insisté ?
Tu me t'en touches.
Oui, je me t'en touche. Non, effectivement, le projet est intéressant. J'ai rencontré dans cette radio, effectivement, Paul, la première fois. Donc, c'était une émission en novembre, je crois, quelque chose comme ça, en octobre-novembre. La première fois qu'Arnaud Gannet nous parlait, il était en avion pour aller en Guyane. Donc, il doit pouvoir dater. J'ai participé, effectivement, à la caravane à Ajaccio. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était important de rejoindre des personnes qui participent et qui bougent effectivement sur ce sujet-là. Parce qu'en fait, dans ma petite UAPED et en train de la construire, je me sentais quand même très, très seule. Avoir d'autres personnes qui partagent les mêmes ambitions, c'est-à-dire la protection de l'enfance et l'aide à cet enfant qui a été victime. Parce que ce n'est pas que la protection, il faut aussi l'accompagner, il faut déjà l'écouter. C'est très très important.
Écouter l'enfant avant même de l'accompagner peut-être, Arnaud, qu'est-ce qu'on pense ?
Alors je ne sais pas si ce n'est pas dans les deux, si ce n'est pas l'accompagner pour pouvoir l'écouter. Si je pense que les deux doivent pouvoir s'argumenter parce que de temps en temps on ne peut pas nous parler tant qu'on n'a pas été accompagné. C'est mon point de vue, c'est peut-être pas le tien.
Si, si, mais je dirais même avant toute chose, on en a parlé ce matin, je pense qu'il y a la question de l'accueil en réalité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met les conditions propices à un accueil ? On l'a bien vu, on a parlé notamment ce matin, c'était assez fort, j'ai trouvé ce temps-là, où on parlait de nos capacités d'accueillir, y compris les enfants en situation de handicap, et on se rend bien compte que bien souvent, alors même que ce sont eux qui sont beaucoup plus exposés que les autres enfants, pour dire des choses comme ça, alors c'est vrai que ça en fait un peu des enfants de deuxième catégorie, c'est un peu dur de dire ça, t'sais. Je trouve que c'est assez juste de se rendre compte aussi que nos établissements, encore aujourd'hui, et même nous, je pense, dans la manière de faire, on zappe complètement cette question-là qui est fondamentale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on parle d'un sujet aussi grave quand l'accueil lui-même, déjà, laisse à désirer, Donc pour moi, il y a un ensemble, en fait. C'est un peu l'ensemble, mais je dirais que l'accueil et l'accompagnement, ça me va, l'écoute, effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental, se mettre à hauteur d'enfant, c'est des choses qui sont importantes. Mmh. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas inné, et c'est pour ça que d'avoir des belles dynamiques comme celles qui se mettent en place sur le territoire corse, bah, ça fait du bien. Moi, ça m'inspire, c'est bien.
Atem Balé rejoint l'équipe, j'ai envie de dire, mais Atem œuvre en matière, malheureusement, de violence sur le territoire corse depuis déjà longtemps. Cette dynamique dont parle Arnaud, elle est essentielle, j'imagine.
Oui, je pense, c'est même pas question, je pense, je suis sûr, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on laisse, qu'on dit libération des paroles, c'est très très bien, mais déjà, en contrepartie, il faut qu'il y ait une bonne interprétation et une bonne compréhension de ce qu'il dit l'enfant. Je ne cherche pas à écouter l'enfant, je cherche à savoir ce qu'il n'est pas dit, ce qu'il est entre les lignes. Quand l'enfant que j'ai dit, je ne suis pas bien, je suis malade. D'accord, c'est très bien, tu es malade, pourquoi? Parce que papa, il m'a frappé. Ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire, s'il a dit papa parce qu'il m'a frappé, il m'a donné une gifle, ça veut dire beaucoup de choses. Si le père se permet de frapper son fils, par exemple, peut-être il y a autre chose, c'est là où notre rôle. Il y a des vocabulaires, mots de clé, qu'ils soient signes cliniques, qu'ils soient verbales ou qu'ils soient comportementaux. À partir de là, il faut qu'on puisse l'interpréter. Pour qu'on puisse interpréter, il faut qu'on soit formé. Pour qu'on puisse former, il faut qu'on soit le même protocole thérapeutique, le même langage. La même compréhension. Pour ça, c'est énorme de travail. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qu'ils ont fait comme travail, c'est un tapis rouge et il faut le saisir. Ça veut dire, moi, que j'ai dit tout à l'heure, je suis co-coordinateur avec eux. Je suis honoré qu'ils soient acceptés.
La formation des professionnels, ça a été vraiment abordé. C'est revenu dans les trois axes, si je me trompe, des directives, des préconisations. Voilà. Cette formation, elle est essentielle. On a entendu ça, en tout cas, ce matin.
C'est fondamental. Ça veut dire que je vous donne l'exemple, si je me permets. Quand je vous donnerai, moi j'ai écrit le chiffre 6, pour moi c'est 6, pour vous c'est 9. Voilà, c'est ça. Donc il faut qu'on ait le même langage. Qu'il y ait une assistante sociale, un psychologue, un médecin généraliste, un médecin spécialiste, mais qu'il soit un psychiatre ou n'importe, qu'il trouve une petite hématome sous le bras, il faut que ça le dise, claque. C'est pas obligatoirement, c'est son copain, non, il faut aller au-delà. Il faut avoir. Toujours la réflexe. Vous savez, l'intoxication d'oxyde de carbone, par exemple, mon oxyde de carbone, c'est quelque chose, on ne le voit pas, on ne le sent pas, par contre, on voit les conséquences. C'est la même chose. Il faut qu'on ait toujours le doute, chaque chose, chaque fois, on attend un enfant qui parle. Pour ça, la formation, c'est fondamental.
Paul ? Je tiens juste à rajouter au niveau des formations que suite aux caravanes Move Enfants d'Arnaud, on a reçu, bien évidemment, lors des caravanes, des professionnels, des assistantes sociales de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance. Il faut savoir quand même que, bon, il y a quand même des petites choses qui bougent et qui sont plutôt un petit peu réjouissantes. C'est que une partie, voire la totalité, ça je pourrais pas dire, mais des assistantes sociales de l'ASE ont récemment été formées par le docteur Jean-Marc Benkemoun, qui avait accompagné les caravanes Move Enfants d'Arnaud. Super. Donc il y a des petites choses petit à petit qui se construisent. Donc il n'y a plus qu'à continuer.
Après, ce qu'il faut bien entendre, par exemple, si je peux rajouter sur le sujet, moi j'entends ce qui est dit sur la formation, c'est très juste. C'est extrêmement important. Après, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est un outil parmi d'autres, et surtout le principal, c'est le discours qui doit être cohérent. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences dans le discours politique notamment. Dans ce qu'on peut, parce que, en fait, la formation, ça fait partie d'un tout, mais ça fait partie d'une, c'est la déclinaison d'une doctrine. C'est-à-dire une doctrine qui vise à dire, évidemment, si on veut protéger les enfants, protéger les femmes, voilà le discours qu'on doit tenir. Et si on fait une formation uniquement pour former et que derrière, on réforme pas tout le système qui dysfonctionne, enfin, aujourd'hui, clairement, une fois qu'on a dit la formation, je suis entièrement d'accord. Hein. À thème, il n'y a pas de sujet. Sauf que quand il y a 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste, je veux dire, on peut tous se former. Et puis au-delà de ça, ça veut dire que inévitablement, il y a un pacte moral qu'on fait avec un enfant qui se confie à nous, qui nous fait confiance, qu'on n'est pas capable de tenir parce que derrière, on sait très bien que quelque part, on l'envoie au casse-pipe. C'est ça que ça signifie. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'il faut renvoyer ce message et je pense qu'on est dans l'entre-deux. C'est là que c'est compliqué. Il va falloir qu'on assume au bout d'un moment que tout n'avance pas à la même vitesse, mais qu'il faut avancer. et qu'il va falloir réajuster. Et donc, il va falloir évidemment des marges de manœuvre, de contre-pouvoir pour être en capacité de tout réajuster. Et je pense que ça, c'est essentiel. Donc, il faut des bonnes volontés, qu'elles soient médicales ou autres. Et d'ailleurs, je le salue parce que c'était l'exposé qui a été fait ce matin par Atem au moment du temps qu'on avait ensemble. C'est que oui, il y a un lien à faire avec les violences faites aux femmes. Hein. On a parlé aussi beaucoup ce matin, par exemple, des questions qui étaient portées notamment par le collectif Restart avec la Maison des Femmes de Saint-Denis et d'autres Maisons des Femmes qui se déploient sur le territoire. Et je pense que c'est la déconstruction d'un même ordre et d'une même violence faite aux femmes, aux enfants, avec un alignement qui doit être complet. Et on voit bien, aujourd'hui, la protection de l'enfance, pour le dire autrement, et j'arrêterai là-dessus sinon je vais manger beaucoup de temps, il y a ce courant-là qui est très positif. On va dire le courant féministe, mais qui est quand même minoritaire dans la protection de l'enfance. Pourquoi ? Parce que, pour le dire autrement sur ces ondes-là, c'est que, en réalité, on voit bien que les stéréotypes aujourd'hui de la protection de l'enfance sont souvent des métiers féminins. On est souvent dans quelque chose où on dit à un enfant, voilà, il faut le confier, mais on est parlé avec certains psys, c'est avec quelque chose de très maternant, qu'on renvoie aussi de l'image de la femme, d'une certaine image qu'on véhicule, etc., qui font que finalement, sur certains métiers, il n'y a pas d'hommes. Les assistantes familiales, il y en a, allez, on va être sympa, il y a peut-être un homme comme ça par-ci par-là, mais il y en a très peu. Et c'est pas pour rien, parce qu'à un moment donné, ce sont des métiers qui sont quasiment exclusivement féminins. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut qu'on arrive à déconstruire. Et on voit bien qu'il y a une vraie résistance au niveau de la protection de l'enfance. Je dirais qu'on a quand même réussi à faire bouger les choses, parce que de plus en plus, il y a quand même des associations de protection de l'enfance qui commencent à comprendre des choses, inévitablement, parce qu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés avec les enfants qu'ils accompagnent. Je veux dire, quand la justice classe sans suite, alors qu'il y a par exemple une quinzaine de signalements sur un gamin, ça met en difficulté l'éduque, ça met en difficulté tout le système, y compris les équipes, et là, inévitablement, au bout d'un moment, qu'il y a un discours comme celui-là, je dis pas qu'il rassure, mais quand même, il fait du bien, parce que ça permet d'interroger les choses, voilà.
J'ai vu, quand tu parlais justement de ces métiers très féminisée. J'ai vu Dominique Nadeau qui nous a rejoint autour de cette table. Je l'ai vu effectivement hocher la tête. Dominique, je vais peut-être vous laisser vous présenter pour nos auditeurs.
Alors, donc, je suis Dominique Nadeau. J'ai été déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité en Haute-Corse pendant 17 ans. Et je travaille sur les sujets d'égalité entre les femmes et les hommes depuis une trentaine d'années. Donc, ce ne sont pas des sujets qui me sont tout à fait inconnus. Effectivement, je hochais la tête parce que ça faisait écho à une réflexion d'une intervenante tout à l'heure dans la salle qui disait « Mais où sont finalement les hommes sur ce sujet de l'inceste ?» Alors, bon, moi, mes petits mécanismes intellectuels, c'est bien sûr qu'il y a surtout des femmes. Parce que si on parle de professionnels, quels sont les secteurs qui sont représentés ? Le social, le médical, le paramédical, qui sont ultra, ultra majoritairement féminisés. Et ça, ce sont des lignes qui ont énormément de difficultés à bouger parce que, comme le disait Arnaud, on est encore dans ces représentations où, effectivement, le care, c'est les femmes.
Bien sûr.
Et ça, on y travaille depuis des années sur cette déconstruction des stéréotypes. C'est comme un certain nombre de choses. C'est vrai que la formation, c'est pas suffisant. C'est une étape nécessaire, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, les stéréotypes, on lutte. Et Dieu sait si maintenant, sur le territoire, maintenant, il y a un certain nombre d'initiatives tout à fait pertinentes et intéressantes. Mais on voit bien que les résistances, elles sont énormes. Bien et sûr. Ces résistances-là, c'est l'ancrage. C'est l'héritage de ce patriarcat qui commence à être un petit peu fissuré et remis en question, mais ça se traduit pas forcément très vite dans la réalité. Bon, voilà. Sur les métiers, de toute façon, plus c'est féminisé, moins on paye. Donc ça, déjà, c'est un constat. Et c'est pour ça que c'est très difficile à bouger. Mais on ferme la parenthèse sur cet aspect-là.
Évelyne Ferry, tu
Oui, non, mais c'était juste pour dire, et on le voit dans le monde du travail, puisque ça a été abordé. Et moi, je le vois aussi par ce prisme-là, la question du genre et même des filières dans le choix des parcours. Malheureusement, même si on a déconstruit certaines choses, elles sont encore très ancrées aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure justement des comportements qui ancestraux, et on a parlé de Depardieu, parce qu'on l'excuse, le pauvre, c'est Depardieu. Et non, mais pour dire, mais dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. On retrouve exactement les mêmes réflexions. Et l'employeur qui a une obligation de protection, et que même quand il y a des signalements, la parole n'est pas entendue. Alors déjà celle des enfants, quoi, encore pire, c'est donc celle des enfants. Je veux dire, et il y a certains comportements au travail qui sont issus aussi de comportements à la maison. Donc je veux dire, c'est toute une chaîne en fait qu'il faut déconstruire. C'est pour ça qu'il y aura, c'est pas deux vitesses, hein, c'est à plusieurs vitesses, même au niveau de la prévention, de l'information, de tout. Et même la justice, j'allais dire, prud'homale, la justice, vous savez qu'il y a au bout d'un an, une fois que les faits sont signalés sur le lieu de travail, il y a prescription pour l'agresseur et il ne sera pas du tout inquiété dans le monde du travail. Il y a plein de choses qu'on ignore en fait quand on porte plainte, quand on a été agressé sur son lieu de travail, au bout d'un an. Eh bien, on ne peut plus se retourner contre son agresseur. Il peut même reconnaître les faits. Il n'y a aucune sanction. Donc, mais au niveau de la c'est pour ça que ça m'a fait écho même à la dernière fois quand tu es venue. Au niveau de la justice, il y a encore des aberrations. Et puis cette clause de Roméo et Juliette dont on a encore parlé. Enfin, plein de choses qui font qu'il y a des choses qui avancent et des choses qui reculent encore, malheureusement.
On peut peut-être, pour nos auditeurs et auditrices, expliquer ce que c'est cette clause.
La clause de Roméo et Juliette, c'est les 5 ans d'écart, en fait. C'est ça, hein, entre l'agresseur et... Quand il y a un rapport sexuel entre deux pères, un adulte, comme un majeur et un mineur, s'il y a 5 ans d'écart et qu'il y a eu consentement, entre guillemets, c'est pas considéré comme une agression.
C'est par rapport à la question du consentement, effectivement, la loi de 2021 qui est venue fixer un seuil d'âge de non-consentement en dessous de 15 ans et 18 ans en cas d'inceste. Le législateur et notre cher garde des Sceaux a porté quelque chose qu'il a appelé, de manière, à mon sens, assez subtile, plus que maladroite, mais au moins qui a tué toute discussion, l'amendement Roméo et Juliette. La clause, pardon, Roméo et Juliette, qui vise à dire effectivement qu'on peut avoir des relations sexuelles entre un adulte de 18-19 ans et un jeune ou une jeune de 13-14 ans. Voilà. Donc avec un écart de 5 ans. Ce qui est en fait ce que je dis moi dans le film, ce qui fait qu'on recule en fait, parce que jusqu'alors il y avait un délit d'atteinte sexuelle en dessous de 15 ans. Donc ça veut dire qu'en fait ça fait même sauter ce qui existe ou du moins ça met une confusion, parce que le délit d'atteinte sexuelle existe toujours. Et donc quand il y a une confusion, forcément c'est toujours bon pour les agresseurs. C'est un peu le système quand même qui est comme ça, et donc comme par hasard c'était porté par Éric Dupond-Moretti. Mais pour dire qu'au niveau de la justice, il y a beaucoup de choses à faire, peut-être que je me permets juste... Mais vas-y, tu veux...
Non, mais je te comprends.
Ce qui me semble important, c'est que... Et même pour être quand même sur l'actualité, il faut savoir que pas plus tard qu'il y a quoi, quelques jours, il y a deux jours, il y a quand même eu le tribunal de Metz, il y a eu une décision qui a été prise sur des violences conjugales, sur des violences sur les enfants. Quand je dis violences, ce sont des étranglements, c'est même un père qui prend son arme de service, parce qu'il s'agissait d'un policier. Et qu'il la braque sur son enfant pour le faire travailler, parce que tout le monde sait qu'effectivement braquer une arme sur son enfant, ça fait bosser, c'est évident. Il avait été condamné en première instance, relaxé en seconde instance, et la juge a invoqué un droit de correction. Voilà, je le dis simplement, nous sommes en 2024.
C'est dramatique
parce qu'effectivement il peut y avoir de la jurisprudence derrière, et je trouve que les réactions politiques qui sont quand même présentes ne sont pas suffisamment à la hauteur d'une ineptie, le droit à la correction quand même. Je veux dire, c'est...
Beaucoup de questionnements qui ont été faits après la projection du film. On reviendra aussi sur ces questionnements parce que ça montre que à la fois la société civile s'interroge, mais en fait toutes les questions que peut se poser la société civile, eh bien, elle va pas forcément trouver des réponses, en tout cas auprès des politiques, auprès des juristes.
Oui et non. Oui, la société civile se pose des questions, mais je crois que la société civile est assez intelligente, subtile, volontaire pour trouver des réponses, voire même des solutions. A contrario, on peut constater en revanche un immobilisme, comme le dit souvent Arnaud, au niveau des décisions politiques et institutionnelles.
Tu parlais de déstructuration. Arnaud, ça veut dire quoi ? Il faut casser, il faut reconstruire, il faut partir sur des bases qui sont déjà existantes.
Moi, je pense que les bases, quelque part, on les a. C'est là que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur nos ressources et il faut lutter contre les inversions en fait qu'il y a en matière de lutte contre les violences. En réalité, aujourd'hui, tout est à la charge en fait quasiment des victimes. C'est-à-dire que c'est les victimes qui doivent se justifier, c'est la victime qui on remet en question sa parole, etc., etc. Donc ça veut dire que il s'agit juste d'accompagner quand même des décisions qui sont prises, d'une vraie cohérence, d'un discours politique ferme qui vise à dire on vous croit, on vous protège, et pas on vous croit, on vous protège. Toutefois, il y a la présomption d'innocence, donc ça veut dire que quelque part, t'es peut-être un menteur, une menteuse, parce que c'est ça qui est dit derrière. Il y a souvent un exemple qui est pris, et je le dis sans paraphraser celui qui le donne, mais je le nomme quand même, c'est le juge Édouard Durand, sur la question de la présomption d'innocence. Je suis, ben là par exemple, je sais pas, dans un supermarché, quelqu'un me voit voler, j'en sais rien, du chocolat, par exemple. Je sors avec ma tablette de chocolat, tout le monde m'a vu. Je me fais arrêter par la police. Je vais au commissariat, je fais une garde à vue. Je sors du commissariat. Je suis libre. Je suis présumé innocent. Est-ce que les gens qui m'ont vu, pour eux, je suis innocent? C'est une question. Ben, je pense pas, non. Donc ça veut bien dire que la présomption d'innocence ne veut pas dire que la personne l'est directement. Et au contraire même, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose à charge pour que cette personne soit présumée innocente et donc qu'on la mette un peu en question quand même sur des faits quand même qui sont d'une certaine gravité qui font qu'il est inculpé quand même. Sauf que nous, on arrive en fait à minimiser les choses en disant attention, homme, artiste, etc. On ne sait jamais sur un malentendu, comme on dit. Non mais, c'est insupportable. Et ça veut dire que ça se retourne systématiquement contre la victime. Et l'affaire Depardieu dont on parle, etc., et dont on parle à travers le monde, parce que Gérard Depardieu, c'est là que c'est terrible, parce que c'est un acteur international, etc., est terrible pour la France. Parce que ça montre qu'on n'est pas capable de se situer du côté des victimes et finalement de l'histoire des mouvements MeToo, etc. C'est ça qui est terrible.
Docteur Atembalé, par rapport à toute cette expérience auprès des femmes notamment, il y a eu des enfants aussi, hein, forcément, parce qu'on a fait le lien. Alors, on parlait de co-victimes pour les enfants de femmes victimes de violences. Finalement, ce n'est pas co-victimes, c'est victimes.
Je reprends un petit peu tout ce qu'on a dit. Je pense... Je protège personne, je défends personne. Simplement, on regarde la situation actuelle. La position des femmes victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles, la position des enfants qui osent parler, qu'ils parlent pas, on s'en rend compte, il y a pas mal de dossiers qui sont classés sans suite, soit au parquet de décision. Je pense là, notre devoir, et c'est une obligation morale et professionnelle, qu'on concentre dans les qualités de dossier. On a un énorme problème des qualités de dossier. Ça veut dire que quand vous présentez un dossier pour défendre la victime, vous le donnez le juge ou l'avocat, n'importe. Le certificat médical, il n'est pas en norme. Le certificat médical, il manque beaucoup des éléments. Le certificat médical, il n'aborde pas la vie intime ou autre, la relation. Le rapport de la psychologue, qui ne parle pas du tout, qui ne cherche pas à comprendre. Simplement, dites-moi ce qui se passe. La dame, elle va dire 2-3 mots. Ben, ça y est, je note ça, c'est le rapport. La victime, elle répond à votre question. Et de temps en temps, on a besoin de savoir ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a entre les lignes. Ou le rapport de l'assistance sociale, je ne peux rien dire parce que c'est secret professionnel. Ça existe, la loi, qui dit protéger le secret professionnel partagé. Je pense qu'il faut déjà qu'on commence en dehors de formation, après qu'on puisse regarder la qualité du dossier en charge, qu'on va pouvoir les donner à la victime, qu'on doit donner à son avocat ou qu'il puisse présenter. Ça, c'est un élément très important. On ne peut pas non plus... Il y a à prendre en charge la maman, la victime, qu'elle soit maman ou papa ou non pas, sans prendre en charge les enfants. C'est une faute gravissime, c'est une faute professionnelle. Merci. On prend en charge la mère, on néglige l'enfant, mais ce n'est rien du tout, il ne l'est pas vu. Si ça existe deux violences, la violence auditive et la violence visuelle. Il ne faut pas oublier ça. Si on ne prend pas en charge, 5 enfants, donc ça fait 5 dossiers, ça fait 25 évaluations à faire. À partir de là, on peut le dire, ça y est, je fais quelque chose à la femme, la victime, je fais quelque chose à ses enfants, à partir de là, éventuellement, je peux dire, ça y est, je participe à la protection, la société, la génération future.
Merci, docteur. J'aimerais qu'on revienne sur le film, en fait, parce qu'on a très peu de temps, hein, parce que il y a les Bastiers qui doivent remonter là-haut, et puis Arnaud qui doit prendre son
encore
avion.
Encore plus haut.
Voilà, là-bas. Ce film, Inceste, un homme en colère, qui a été réalisé par Guy Padovan, donc il a été présenté tout à l'heure au cinéma Laetitia. Ce film, 3 ans, plus de 3 ans de tournage, de suivi. Tu le disais, ça a été compliqué aussi pour toi, 3 ans à Réal. Oui.
Bien sûr que c'est compliqué, parce que quand on est victime de violences sexuelles, d'inceste, il y a quelque chose en fait, du quotidien qu'on ne partage pas beaucoup en fait, avec d'autres. Et du coup, d'avoir quelqu'un, je vais pas dire dans mes pattes, mais où je faisais le pari. Bon, après, il est très sympathique, mais c'est pas évident. Ça veut dire qu'on a eu aussi ces moments, je dis pas de tension, mais de moments qui sont pas simples, sur lesquels on revenait après. Et lui-même, en fait, il était en immersion pleinement. Et puis, il était en immersion aussi dans ce que je me prenais en pleine tête. Hein. Je veux dire, j'ai été directement confronté à l'Église qui savait et qui n'a rien fait. Lui, moi, ça ne me surprenait pas. Sauf que lui, à se retrouver confronté à ça, il était dans ma peau. Et donc, il se dit, mais c'est une blague, c'est pas possible. En France, en 2020, bah oui, en France, en 2023, c'est ça, en fait. C'est comme ça qu'on nous traite, en fait. Donc moi, je le dis toujours avec un petit sourire où j'en rigole, parce qu'au moment, il vaut mieux rire que pleurer, comme on dit. Mais sauf que, bon, intérieurement, je pleure, je pense. C'est un peu ce que raconte le film, quand même. Après, je cherche à garder la tête sur les épaules et à se dire qu'il faut la jouer collectif et il faut qu'on avance. Ce qu'on fait toutes et tous ici, c'est vrai que c'est quand même des mécanismes dont tu parlais juste avant, Dominique, à juste titre, qui, c'est pas évident.
On peut pas s'empêcher quand même d'avoir un sentiment de révolte quand on passe une journée comme celle-là, pleine d'émotions, où on est sur une thématique plus que sensible, qui n'est pas toujours, on n'en parle pas tous les jours, hein, à moins d'être effectivement complètement dans ce sujet. Qu'on écoute, hein. Moi j'écoute beaucoup, j'essaye d'analyser, malgré l'âge que j'ai, où j'en ai quand même vu pas mal de choses, je suis toujours aussi révoltée que quand j'avais 20 ans en fait, ça change pas, même si les choses avancent, hein, je dis pas que ça n'avance pas, mais ça avance vraiment à tout petit pas.
C'est clair.
Et pendant ce temps-là,
c'est clair.
Qu'est-ce qui se passe ?
On 13, a tué les collectifs
13 victimes
aussi,
par hein. jour
Plus de 13, c'est l'Église. En réalité, ouais. c'est toutes les 3 minutes. Un enfant en France est victime de violences sexuelles toutes les 3 non. minutes. Au bas mot. Toutes les 3 minutes.
Moi, j'entends ta révolte, mais je ne vois pas la révolte que ça dans la rue. Moi, je reste toujours très Exactement. Étonnée, excusez-moi, quel que soit le oui. sujet, et celui-là encore plus. Je ne dirais pas qu'on est un peuple de moutons, je ne voudrais pas stigmatiser tout le monde, mais il faut continuer à marteler les choses et à crier, il y a ce truc. Mais je ne nous trouve pas, et je trouve qu'on a tué les collectifs, alors que ce soit les collectifs de travail, les collectifs... Quoi, et ce qui fait qu'on est beaucoup dans l'individualisme, et seul c'est difficile de se battre Bien et sûr. D'être visible. Et c'est pour ça que je pense d'aller vers les associations, quelles qu'elles soient. Je ne parle pas là, ce n'est pas forcément pour parler du syndicat, mais je veux dire que ça soit des collectifs même médicaux, sociaux, associatifs, culturels, sportifs. Ces mouvements-là doivent être dans la rue. On ne doit laisser aucun minute de répit. Une victime n'a pas une seule minute de répit. Et il ne faudrait laisser aucune minute de répit aux ceux qui décident, à ceux qui font les lois, à ceux qui jugent. Voilà, on ne doit pas les laisser une seule seconde. On devrait occuper l'espace en permanence. Alors et on devrait être dans la rue. Quoi.
On devrait. Justement, la civise, la crivise, et on va terminer peut-être là-dessus pour laisser Arnaud prendre son avion, même si on aimerait le garder avec nous, mais quand même, après, on appelle ça... comment on appelle ça, d'ailleurs ? C'est pas du recel, c'est
un rapt.
Donc, on peut assumer ça. Le
recel, c'est pour les objets.
Mais oui.
Non, faut pas. Attends, tu veux me vendre, putain.
On sait jamais.
J'ai halluciné, pas le business.
Donc, la civise... Et puis maintenant, la crivise en Corse. Paul, c'est toi qui nous en dis deux mots c'est...
Avec plaisir. Tout d'abord, ça raconte la crivise, l'histoire de la rencontre aussi avec Arnaud, parce que sans cette rencontre, le 4 mai 2023, bien peut-être qu'on n'aurait pas non plus ambitionné les choses de cette façon. Donc il y a eu ce fameux colloque sur les violences sexuelles intrafamiliales. 4 mai 2023, on repart avec Arnaud sur les caravanes mouvants-enfants du 15 au 19 janvier. C3S existe depuis. On crée cette cellule scientifique donc, qui est financée par l'Agence régionale de santé. Et la cellule scientifique vote à l'unanimité un travail sur le plan d'action suite aux recommandations comme je le disais tout à l'heure, des personnes issues de la société civile, du terrain, pour justement mettre en œuvre des recommandations, parce que les recommandations, elles auraient pu exister, personne s'en serait forcément emparé, et puis bon, bah, on en reparle l'année prochaine pour un petit colloque, un petit événement sympatoche et tout. On remet un peu d'émotion, et puis il se passe ce qui se passe. Bon. Alors, on n'a pas été dans la rue, pour le coup, Evelyne.
C'est la prochaine étape, t'inquiète.
Mais suite à ce travail, ce plan d'action, donc, on a eu l'ambition d'en faire une présentation Arnaud me passe un petit coup de fil et m'explique qu'en fait, dans d'autres régions, il y a la création de CLIVISE, donc de commissions locales, ou de CRIVISE, commissions régionales. Il me dit, en gros, tu en penses quoi? Je la fais rapide. Et je lui dis, mais feu, on y va, bien sûr qu'on y va. Évidemment, parce que pour porter après le plan d'action, il faut bien quand même qu'il y ait une, entre guillemets, structure, en tout cas quelque chose de structuré. Et puis, je me suis souvenue d'avoir rencontré Athème lors d'un événement en décembre 2023. J'entendais souvent parler d'Athème. Et je le rencontre dans un colloque. Oui, oui, en bien, ça c'est sûr. En tout cas, des personnes auxquelles je pense, ça c'est certain. Et je le rencontre et puis on réagit un petit peu dans le même sens lors d'un événement où tu étais présente aussi, Sylvie. Et on est à trois à réagir avec le même fond. On était tous d'accord sur ce qu'on se disait. Mais la forme était très différente. Et je me suis souvenue que ce docteur plein de bon sens était surtout plein de sagesse aussi, là où nous, tissus associatifs, on est peut-être un peu plus vindicatifs, on va dire, pour rester très poli.
Plutôt vasodilatateur.
Ça, si tu veux, mais c'est ton côté médecin. Et du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit, on se connaît pas beaucoup, on était juste d'accord lors d'un événement. Et est-ce que ça vous dit, docteur Ballé, enfin, je suis restée très, très sérieuse, je vous explique ce qui se passe, est-ce que ça vous tente qu'on y aille? Et puis on a fait 2-3 visios, notamment aussi avec Dominique Nadeau ici présente. On a un peu mis les choses en forme et on s'est dit bah, qu'on y allait et que si on y allait, bah, c'était ensemble. Voilà.
Et voilà.
Et donc elle aura vocation pour finir cette CRIVISE de veiller à la mise en place, la mise en œuvre de ce plan d'action et donc de travailler aussi de façon transversale sur les formations. Et également de travailler de façon transversale, encore une fois, autour des violences sexuelles intra- et extra-familiales faites sur mineurs, mais aussi sur les violences faites aux femmes, puisqu'il y a encore une fois 25% des personnes victimes de violences conjugales qui ont été victimes de violences sexuelles avant l'âge de 15 ans. Donc le lien est assez important et les chiffres sont assez importants pour qu'on travaille, encore une fois, de façon transversale.
Eh bien, merci.
Attends, Arnaud, j'ajouterai juste un petit truc, c'est important en fait pour bien comprendre. C'est-à-dire que, alors peut-être que ça aura échappé à certains, mais quand on est dedans, nous on a bien vu ce qui se passait. Il y a quand même eu tout un foin à l'issue de la CIVISE, avec l'éviction notamment du juge Édouard Durand, que personne n'a compris encore aujourd'hui, parce que rien n'a été dit. Enfin, si, on a compris le message, ça c'est sûr, mais rien n'a été posé. Bref, ça a été un vrai fiasco. Après, il y a eu un début de CIVISE. Bref, on s'est dit, en fait, on parle de tout,
sauf du fond.
Sauf du fond. Et finalement, en démocratie, alors il y a deux choses dans un rapport. Un, vous vous adressez au politique, il en fait ce qu'il veut. Bon, on a bien vu ce qu'il en faisait. Bon, ça, c'est le premier truc, ou tout du moins, il en est à ce stade de digestion, pour dire les choses comme ça. Deux, il ne faut pas qu'on se dédouane, nous, société civile, citoyenne, citoyen, de notre responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a suffisamment de champs d'expertise autour de cette table, mais ailleurs, pour se dire qu'au fin, bon sang, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui nous dise comment faire ou d'agir, comment agir pour le faire. Donc faisons-le. S'ils suivent, qu'ils suivent. Ils ont décidé aujourd'hui, je dis « ils », le gouvernement, de mettre de côté notamment les victimes, etc. Là, on a un savoir expérientiel et c'est ce que ça démontre, y compris ici en Corse. Parce que oui, en Corse, il y a aussi des victimes d'inceste, etc., qui ont pris la parole et qui ont porté en fait leur parole pour justement contribuer au débat public. Profitons d'eux pour protéger en fait les enfants et pour impulser une vraie culture de la protection des enfants. Et c'est tout le sens en fait de cette CRIVISE, c'est de rappeler effectivement que quand il y a plus de 10% de la population française qui est victime de violences sexuelles dans son enfance, il faut qu'on pense à une réparation collective qui s'appuie aussi sur ce champ d'expertise que les victimes elles-mêmes ont connu et qu'on soit en capacité d'avancer sereinement, je ne vais pas dire main dans la main parce que ce n'est pas le monde de oui-oui ou je ne sais pas quoi, mais vraiment qu'on se dise au bout d'un moment, et finalement on a soif aussi de démocratie, on ne va pas se mentir, on n'arrête pas de dire au bout d'un moment, oui, la démocratie, machin, montée du Front National, enfin etc., etc. Et alors, faisons-le, quoi. Arrêtons un peu de se dire, on est tous dégoûtés des manœuvres politiciennes qui, au bout d'un moment, correspondent à rien du tout. Et on sait
soyons
qu'ils font
dégoûtés ensemble et faisons quelque chose.
Exactement. Et ben, c'est nous, en fait. La politique, c'est nous, c'est ce qu'il y a de plus.
Oui.
Voilà.
Et
sur ces mots, je m'envole.
Et voilà, sur ces mots, nous allons partir en musique. Juste pour rebondir et terminer avec ça, effectivement, je pense que tout le monde sur cette planète a son propre moyen d'agir, petit, grand, etc. Nous le faisons ici avec cet outil radiophonique, radio-associative. Frequenza Nostra, elle vous donne la parole, elle donne la parole à travers toi, à tous les enfants victimes de violences. et à ceux qui le sont en ce moment, qui malheureusement le seront demain encore. Cet outil-là, et je le dis à ceux qui sont, à vous tous qui êtes présents dans ce studio, et je le dis à ceux qui nous rejoignent, qui nous écoutent, et à nos auditeurs, auditrices, nos followers qu'on a voulu bannir, 16 000 followers qu'on a bannis aussi comme
c'est
ça.
Dingue, ça.
Et oui, ça, peut-être qu'une radio associative eh bien, qui dénonce aussi des choses, ça gêne. Bref, nous sommes là, cet outil vous défend, cet outil en tout cas donne la parole. Utilisez-le, vous qui nous écoutez, qui nous suivez, utilisez-le, nous sommes là pour vous. Merci à vous.
Viva Fréquence Inter Sport.
Merci à vous.
Allez, vite, merci la fin n'attend pas.
Merci beaucoup.